إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on continue ce soir la lecture et l'explication du chapitre de la purification du livre منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. Après avoir mentionné la description des ablutions, l'auteur رحمه الله تعالى a abordé un point qui est lié aux ablutions et qui est l'effleurement sur les chaussons ou sur le plâtre. Et ce car ce jugement est lié aux ablutions. En effet, l'effleurement sur les chaussons va remplacer le lavage des pieds lors des ablutions. Et également, lorsque la personne, un plâtre, une attelle ou un bandage sur un des membres de ses ablutions, alors il aura recours à l'effleurement. C'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ces points ici. Et al-khuf, en arabe, que l'on traduit généralement par les chaussons, c'est ce qui se porte aux pieds et qui est fait de cuir, et entre dans le jugement des khouf, des chaussons, ce qui est semblable parmi les choses qui sont portées aux pieds et qui sont faites de tissu, de laine et de coton, et tout ce qui se porte aux pieds dans le but de les réchauffer. Et l'effleurement sur les chaussons, il est permis à l'unanimité des gens de la sunna, et se sont opposés à eux en cela Ar-Rafida, la secte d'Ar-Rafid. Et c'est pour cela que certains parmi les savants mentionnent ces questions dans les livres de croyances, et ce car cela fait partie des points au sujet desquels les gens de l'innovation comme les Rawafid se sont opposés aux gens de la Sunnah. On a donc dit que cet effleurement est permis à l'unanimité des gens de la Sunnah, et ceci est démontré par le Coran, la Sunnah et l'unanimité des gens de science. Quant à la preuve du Coran, elle se trouve dans le verset 6 de Surat Al-Ma'idah, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. On a vu hier ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala ordonne d'effleurer nos têtes et de laver nos pieds jusqu'aux chevilles. Et ce, selon une lecture du Coran, en lisant le mot أَرْجُلَكُمْ avec une fatha sur le lam. Mais il y a une autre lecture, et qui est de dire وَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ et effleurez vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles. Et cette lecture est une lecture authentique et confirmée. Et les gens de science ont dit qu'on déduit de cette lecture l'effleurement sur les chaussons. Quant aux preuves de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles sont très nombreuses. Parmi elles, à titre d'exemple, on peut mentionner le hadith rapporté par l'imam muslim rahimahullah ta'ala d'après Jarir radiyallahu ta'ala anhu qui a dit « J'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam uriner, puis faire ses ablutions et effleurer ses chaussons. » C'est-à-dire qu'il ne s'est pas lavé les pieds lors de ses ablutions, mais il a simplement effleuré ses chaussons. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala a dit « 70 des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'ont rapporté l'avoir vu faire l'effleurement sur les chaussons. » Et l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a dit « Je n'ai rien dans mon cœur concernant l'effleurement, car il y a 40 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. » Et lorsqu'il dit « Je n'ai rien dans mon cœur », cela signifie « Je n'ai pas le moindre doute dans mon cœur concernant la permission de l'effleurement sur le chausson. » Et les gens de la sunna, comme on a dit, sont unanimes à ce sujet, et cela est rapporté par de nombreux savants. Toutefois, il faut savoir qu'ils ont divergé sur certains détails et sur certaines conditions, comme on va y faire allusion, incha'Allah ta'ala. Le shir rahimahullah ta'ala a dit « فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ خُفَّانَ وَنَحْوُهُمَا مَسَحَا عَلَيْهِمَا incha'a. » Et s'il porte des chaussons ou autre chose semblable, alors il fait l'effleurement dessus s'il le veut. Les chaussons, on a dit, c'est ce qui se porte aux pieds et qui est fait de cuir. Et le shir rahimahullah ta'ala nous dit « ou autre chose semblable, comme, par exemple, des bottes, ou bien des chaussettes. Et on a vu que les gens de science sont unanimes concernant la permission de l'effarement sur le khouf. Mais il faut savoir que concernant les chaussettes, ils ont divergé à ce sujet. Et l'avis le plus juste, Inch'Allah ta'ala, est celui soutenant la permission. Comme le démontre le hadith d'Al-Mughira, radiyallahu ta'ala anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les ablutions et a fait l'effleurement sur les chaussettes. Et ce hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud et il a été authentifié entre autres par l'imam Al-Albani rahimahumallahu ta'ala. Et l'effleurement sur les chaussettes, il était pratiqué par nombre des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, a d'ailleurs dit à ce sujet, le masḥ, l'effleurement sur les chaussettes, est comme l'effleurement sur le khuf, comme l'effleurement sur les chaussons. Et Anas, radiyallahu ta'ala anhu, il a un jour fait l'effleurement sur des chaussettes en laine. Alors, quelqu'un l'interrogea à ce sujet, lui demanda, tu fais l'effleurement sur cela, sur ces chaussettes en laine? Il répondit alors, radiyallahu ta'ala anhu, ce sont des khufs, mais elles sont en laine. C'est-à-dire que c'est comme les khufs, en termes de jugement, sauf qu'elles ne sont pas dans la même matière. Elles ne sont pas en cuir, mais elles sont en laine. Il n'y a donc pas de différence entre les chaussons et les chaussettes en ce qui concerne le jugement de l'effleurement. Et de la même manière, il n'y a pas de différence entre les chaussettes fines ou épaisses, qu'elles soient en coton, en laine ou autre matière. Tant que ce sont des chaussettes et qu'elles recouvrent le pied, alors il est permis de pratiquer l'effleurement dessus. Car les chaussettes, elles sont portées pour la même raison que les chaussons. Elles ont pour objectif de réchauffer le pied, et la gêne présente dans le fait de retirer les chaussons est la même gêne qui est présente dans le fait de retirer les chaussettes. C'est donc pour cela que certains savants ont jugé qu'il était permis de pratiquer l'effleurement sur les chaussettes. Et le Shir rahimahullah ta'ala nous dit, s'il porte des chaussons ou autre chose semblable, il fait alors l'effleurement dessus s'il le veut. Il a donc dit que le fait de pratiquer l'effleurement revient à la volonté de la personne. S'il veut, il fait l'effleurement, ou s'il veut, il les retire et il lave ses pieds. Mais la question qui se pose est qu'est-ce qu'il y a de préférable? Est-il préférable que je retire mes chaussons ou mes chaussettes et que je lave mes pieds lors des ablutions? Ou alors est-il préférable de pratiquer l'effleurement? La réponse est que ce qui est meilleur et préférable est de pratiquer l'effleurement. Premièrement, car en pratiquant l'effleurement, tu profites de cette permission qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il accorde des permissions à ses serviteurs, il aime qu'ils en profitent. Deuxièmement, lorsque tu pratiques l'effleurement, tu pratiques une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même pratiquait l'effleurement. Et la troisième raison pour laquelle il est préférable de pratiquer l'effleurement plutôt que de retirer ses chaussettes ou ses chaussons pour laver ses pieds, et qu'il y a en cela une opposition aux gens de l'innovation qui ont renié cette sunna, comme l'ont fait les Rawafid. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a dit, concernant cet effleurement, énumérant certaines de ses conditions. Masaha alayhima insha'a Le Cheikh rahimahullah ta'ala dit donc que l'on peut faire le masḥ, l'effleurement, un jour et une nuit pour le résident et 3 jours avec leur nuit pour le voyageur, c'est-à-dire 24 heures pour le résident et 72 heures pour le voyageur. La preuve à ce sujet est le hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. D'après Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné 3 jours ainsi que leur nuit pour le voyageur et un jour et une nuit pour le résident. C'est-à-dire qu'il est permis pour le résident de pratiquer l'effleurement à la place du lavage de ses pieds durant 24 heures. Et en ce qui concerne le voyageur, cela lui est permis durant 72 heures. Et la question qui se pose ici est, à partir de quand commence-t-on ce décompte? Est-ce à partir du moment où je mets mes chaussettes? Est-ce à partir du moment où je perds les ablutions? Ou est-ce à partir du moment où je pratique l'effleurement? Les gens de science ont divergé à ce sujet. Et l'avis le plus juste, Inch'Allah ta'ala, est que le temps commence à partir du premier effleurement. C'est-à-dire que si tu fais tes ablutions au Fajr, puis que tu mets tes chaussettes, et que pour la prière de Dhuhr, tu dois refaire tes ablutions, Tu vas donc pratiquer l'effleurement pour la première fois à l'heure du dhuhr. À partir de ce moment commence le décompte. C'est-à-dire que tu auras le droit de pratiquer l'effleurement durant 24 heures à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que le lendemain au fajr et durant la matinée, si tu n'as pas retiré ces chaussettes, il te sera encore permis de pratiquer l'effleurement. Mais une fois le moment du dhuhr arrivé, si tu es résident, alors tu seras obligé de les retirer et de laver tes pieds lors des ablutions. Et concernant le voyageur, c'est le même principe, sauf que lui a un temps plus long, qui est de 72 heures. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous mentionne une condition importante et dit « Bisharti an yalbasahuma ala tahar » à condition qu'il les ait mises en état de pureté. C'est-à-dire que tu aies mis ces chaussettes alors que tu étais en état de purification, après avoir fait des ablutions complètes en ayant lavé tes pieds. La preuve à ce sujet, le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Al-Mughira, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit « J'étais avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, durant un voyage. Je me suis alors baissé pour lui retirer ses chaussons et il m'a dit « Laisse-les, car je les ai mis après les avoir purifiés. » Puis il a fait l'effleurement sur ses chaussons. Les gens de science ont dit que ceci nous prouve que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a émis comme condition de la permission de l'effleurement le fait d'avoir mis ses chaussettes ou ses chaussons en état de pureté, c'est-à-dire après avoir fait des ablutions en ayant lavé ses pieds. Et certaines personnes, lorsqu'elles font les ablutions, après avoir lavé leurs pieds droits, elles les suient et mettent leurs chaussettes. Puis ensuite, elles lavent leurs pieds gauches, puis les suient et mettent la chaussette sur le pied gauche. Et bien que certains savants aient autorisé cela, le mieux et le plus prudent et de ne mettre tes chaussettes qu'après avoir terminé complètement les ablutions. C'est-à-dire que tu laves ton pied droit, puis ton pied gauche, et seulement après cela, tu mets tes chaussettes. Cela est meilleur et plus prudent, inshallah ta'ala. Et si tu changes de chaussettes, alors que tu es toujours en état de pureté, c'est-à-dire tes premières ablutions, que tu n'as pas encore fait l'effleurement. Comme on a dit, tu as fait par exemple les ablutions au fajr, puis tu as mis des chaussettes, et durant la matinée, alors que tu as encore tes ablutions, que tu ne les as pas perdus, tu as besoin de changer de chaussettes. Ceci est permis et il n'y a pas de gêne, inshallah ta'ala. C'est-à-dire que, étant donné que tu es encore sur tes premières ablutions, il n'y a pas de gêne à changer de chaussettes dans cette situation. Et tu pourras pratiquer le mash dessus, inshallah ta'ala. Toutefois, si tu les retires après avoir pratiqué le mash, c'est-à-dire après avoir refait tes ablutions en faisant le mash, en faisant l'effleurement sur tes chaussettes. Dans cette situation, tu ne perds pas les ablutions par le simple fait de retirer les chaussettes, mais tu perds la permission de pouvoir refaire l'effleurement si tu les remets. C'est-à-dire qu'une fois que tu les as enlevées, si tu les remets, tu ne pourras plus pratiquer l'effleurement. Mais une fois que tu auras perdu les ablutions, tu devras les faire intégralement en lavant tes pieds. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, nous dit « Wala yamsahuhuma » illa fil hadathil asghar, et il ne les effleure que pour l'état d'impureté mineure. On a vu dans un cours précédent que l'état d'impureté est de deux sortes. Il y a l'état d'impureté mineure que l'on retire en faisant les ablutions, et l'état d'impureté majeure qui, lui, va nécessiter le ghusl, le grand lavage. Et donc le mash sur les chaussettes ou les chaussons, il n'est permis que pour l'état d'impureté mineure. Car pour l'état d'impureté majeure, si tu as besoin de faire le grand lavage, alors tu seras obligé de les retirer, étant donné que tu dois laver l'intégralité de ton corps, et entre dans cela le lavage des pieds. Le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous mentionne ensuite la preuve de cela et il dit « An anasin marfou'an, idha tawadda ahadukum, wa labisa khuffay, fal yamsah alayhima, wal yusalli fihima, wa la yakhla'huma, insha'a, illa min janabah. » Rawahu al-Hakim wa sahhaha. D'après Anas, qui attribue la parole suivante au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions, puis qu'il met ses chaussons, alors qu'il fasse l'effleurement dessus, et qu'il prie dans ceci, et qu'il ne les retire pas s'il veut, sauf pour la janaba, sauf pour l'état d'impureté majeur. Et ce hadith est rapporté par Al-Hakim, qui l'a authentifié, rahimahullah ta'ala. On voit donc à travers cela, pour résumer, que les conditions de l'effleurement, elles sont au nombre de quatre. Premièrement, c'est que tu mettes tes chaussettes ou tes chaussons alors que tu es en état de pureté, c'est-à-dire après avoir fait tes ablutions entièrement en ayant lavé tes pieds. La deuxième condition est que ces chaussettes ou ces chaussons soient purs. En effet, comme on a vu dans un cours précédent, il est indispensable pour le prieur que ses vêtements qu'il porte pour prier soient purs et qu'il n'y ait aucune impureté dessus. La troisième condition est que l'effleurement ne peut avoir lieu que pour les ablutions lorsque tu es en état d'impureté mineure. Quant à la pureté majeure, comme on a dit, il est obligatoire pour elle de les retirer et de laver entièrement son corps ainsi que ses pieds. Et la quatrième condition est que l'effleurement n'ait lieu que pendant la durée délimitée religieusement. Et comme on a dit, elle correspond cette durée à 24 heures pour le résident, un jour et une nuit, et 72 heures pour le voyageur, 3 jours et 3 nuits. Il ne fait pas partie des conditions de l'effleurement que tu aies l'intention de vouloir le faire au moment où tu mets tes chaussettes. Certaines personnes qui pensent que, étant donné qu'ils ont mis leurs chaussettes sans intention, alors ils ne peuvent pas faire l'effleurement. Ceci est faux et il n'y a aucune base, aucune source de cela. Car le jugement de l'effleurement, il est lié au simple fait de porter des chaussettes ou des chaussons. Le simple fait que tu aies mis ces chaussettes après avoir fait tes ablutions, il est suffisant pour te permettre de pratiquer l'effleurement. Et certains parmi les gens de science ont mentionné comme condition le fait que les chaussettes recouvrent entièrement la partie qu'il est obligatoire de laver, c'est-à-dire qu'elles recouvrent entièrement le pied, qu'il n'y ait aucun trou dans celle-ci. Le Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, a dit, selon le sens résumé de sa parole, que cette condition n'est pas juste, car elle n'est basée sur aucune preuve. Tant qu'on appelle cette chose chaussette ou chausson, il est permis de faire l'effleurement dessus. Car les textes qui sont venus dans la Sunna, ils nous démontrent la permission de l'effleurement sur le khauf de manière absolue, sans restriction. Ceci nous prouve donc que si la chaussette est légèrement trouée, que l'on voit à travers celle-ci la peau de la personne, alors ceci n'empêche pas de pratiquer l'effleurement. En effet, les gens de science ont dit que les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, comme cela est connu, ils vivaient dans une situation de grande pauvreté. Et il est impensable qu'ils ne portaient pas de chaussettes ou de chaussons qui étaient troués. Donc, s'il faisait partie des conditions de l'effleurement, que les chaussettes ou les chaussons ne soient pas troués, que l'on ne voie pas la peau de la personne à travers ceci, et qu'il recouvre intégralement la partie qu'il est obligatoire de laver lorsque l'on lave les pieds, alors ceci aurait été exposé par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il l'aurait expliqué aux compagnons. Il n'est pas possible qu'il ait laissé un jugement aussi important sans leur expliquer. C'est pour cela que le Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, et autres que lui parmi les gens de science, ont soutenu que ceci n'est pas une condition. Donc à partir de là, on pourrait se dire, est-ce qu'il est obligatoire que les chaussettes recouvrent les chevilles? Les gens de science ont divergé à ce sujet. La majorité d'entre eux ont dit que ceci est une condition. Et d'autres ont dit que cela n'est pas une condition. Toutefois, le mieux et le plus prudent est de ne faire l'effleurement que sur des chaussettes qui recouvrent les chevilles. Et ce car, el khouf, à la base, par définition, c'est quelque chose qui recouvre les chevilles. C'est pour cela qu'il est plus prudent de ne pratiquer l'effleurement que sur des chaussettes ou des chaussons ou des chaussures qui recouvrent les chevilles. Et ceci est l'avis de la majorité des gens de science. Toutefois, si tu portes des chaussettes qui recouvrent les chevilles et que tu as par-dessus ces chaussettes des chaussures qui, elles, ne recouvrent pas les chevilles, tu fais tes ablutions, tu mets tes chaussettes, puis tu mets tes chaussures et sors de chez toi. Vient le moment de la prière, tu es dehors. Et tu as besoin de faire les ablutions. Peux-tu à ce moment-là pratiquer l'effleurement directement sur tes chaussures ou dois-tu les retirer pour faire l'effleurement sur tes chaussettes? La réponse est que dans cette situation, il t'est permis de faire directement l'effleurement sur tes chaussures, car tu as en dessous d'elles des chaussettes qui, elles, recouvrent tes chevilles. Ceci sont donc les principales conditions concernant l'effleurement sur les chaussons. Et il faut savoir que l'effleurement sur les chaussons, il ne peut plus être pratiqué à partir du moment où se produit une des quatre choses suivantes. La première est qu'il t'arrive une chose rendant obligatoire pour toi le roussel. Alors à partir de ce moment-là, comme on a dit, tu seras obligé de retirer tes chaussettes ou tes chaussons pour faire le grand lavage. La deuxième chose que les gens de science ont mentionnée est le fait que tu retires une de tes chaussettes en découvrant une grande partie de ton pied. Si par exemple tu retires ta chaussette sur la majeure partie de ton pied, alors à partir de ce moment-là, lors de tes prochaines ablutions, tu ne pourras pas faire de muscles, car c'est comme si tu les avais retirés. Et cela, bien sûr, comme on a dit, dans le cas où tu as déjà pratiqué le muscle. Mais si tu es encore sur tes premières ablutions, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de gêne, inshallah ta'ala, et tu peux même les changer. Mais si tu as déjà pratiqué le muscle, alors si tu retires en grande partie une de tes chaussettes, tu ne pourras plus refaire le muscle lors de tes prochaines ablutions. Et si tu ne retires ta chaussette que légèrement, ta cheville par exemple pour te gratter, ou tu entres ta main dans ta chaussette pour retirer par exemple un petit caillou ou une épine ou autre, alors il n'y a pas de gêne en cela, inshallah ta'ala, tant que la majorité de ton pied reste couvert. Et c'est ce qu'a mentionné le Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. La troisième chose, c'est si tu les retires. Si tu les retires complètement, et que tu as déjà fait le mash dessus, que tu as déjà fait l'effleurement, alors dans ce cas-là, tu ne pourras plus pratiquer l'effleurement. Mais tu devras, lors de tes prochaines ablutions, laver tes pieds. Mais le simple fait de les retirer, il est important de noter que cela ne te fait pas perdre tes ablutions. Cela ne te fait pas perdre tes ablutions. Mais ça t'empêche simplement de pouvoir faire le mash lors de tes prochaines ablutions. Enfin, la quatrième chose qui t'empêche de refaire le masque, c'est la fin du temps légiféré. Comme on a dit, 24 heures pour le résident et 72 heures pour le voyageur. Une fois ce temps terminé, après la première pratique de l'effleurement, alors il ne t'est plus possible de refaire le masque. Mais tu devras retirer tes chaussettes et faire intégralement tes ablutions en lavant tes pieds. Est-ce qu'une fois le temps terminé, tu perds tes ablutions? Une fois les 24 heures passées? La réponse est non, tu restes en état de pureté. Car pour perdre les ablutions, il faut que se produise un des annulatifs des ablutions. Or, le fait que le temps se termine, ou le fait que tu retires tes chaussettes après avoir fait le masha dessus, ceci n'est pas une des choses qui annule les ablutions. Donc tu restes en état de pureté, mais tu devras simplement, lors de tes prochaines ablutions, les faire intégralement en lavant tes pieds. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, a dit فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر ودواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. Et si là, sur un des membres des ablutions, un plâtre en raison d'un os cassé, ou alors pour remédier à une blessure, et que le lavage lui nuit, c'est-à-dire que le lavage va nuire à sa blessure. Il a une plaie, par exemple, et il ne peut pas passer de l'eau dessus, sinon cela retardera la cicatrisation et la guérison. Ou alors il a un plâtre ou une attelle au bras, par exemple, l'empêchant de le laver. Le shir, rahimahullah ta'ala, il dit, alors il effleure avec l'eau, que ce soit pour l'état de pureté majeure ou l'état d'impureté mineure, et ce jusqu'à ce qu'il guérisse. Donc en ce qui concerne l'effleurement sur le plâtre ou sur un pansement ou sur une attelle, c'est permis pour les ablutions et pour le ghusl. Si par exemple une personne a un plâtre à un de ses bras, il fera les ablutions en lavant l'ensemble de ses membres, et au moment de laver le membre qui est recouvert d'un plâtre ou d'une attelle ou d'un pansement, alors il fera l'effleurement sur celui-ci. Et même s'il est en état d'impureté majeure, il fera la même chose pour le ghusl. Il lavera l'ensemble de son corps et il pratiquera l'effleurement sur le membre qui est recouvert du plâtre, du pansement ou de l'attelle. Et le shir, rahimahullah ta'ala, nous dit « jusqu'à ce qu'il guérisse ». C'est-à-dire que contrairement à l'effleurement sur les chaussons ici, il n'y a pas de limitation dans le temps. Car, tant que le besoin est présent, la permission est présente. Étant donné qu'il a une blessure ou un membre cassé, et que ce plâtre ou ce pansement est présent, alors il lui est permis de faire l'effleurement. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, « وَصِفَةُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ أن يمسح أكثر ظاهرهما. Et la description de l'effleurement des chaussons est qu'il effleure la majorité du dessus des chaussons. Et ceci est prouvé par la parole de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, si la religion était basée sur les opinions, le dessous des chaussons aurait été plus en droit d'être effleuré que le dessus. Mais j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam effleurer le dessus de ses chaussons. Et ceci est rapporté par Imam Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, et d'autres, et est authentifié par Imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et Al-Mughira ibn Shu'ba, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, J'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam effleurer le dessus de ses chaussons. Ce hadith est rapporté par Ahmad, At-Tirmidhi, Abu Daoud et d'autres. Il a été jugé bon et authentique par l'imam al-Albani, rahimahumullahu ta'ala. Donc lorsque tu fais le mash, tu n'as pas besoin d'effleurer le dessous de tes chaussettes, ni même le talon. Mais l'effleurement, il a lieu seulement sur le dessus des chaussettes. C'est-à-dire que tu passes tes mains mouillées sur la majeure partie du dessus de tes chaussettes, en commençant par l'extrémité des orteils, en remontant jusqu'à la jambe. Et tu effleures les deux chaussettes ou les deux chaussons en même temps. Le pied droit avec la main droite et le pied gauche avec la main gauche au même moment. Comme pour les oreilles lors des ablutions. Tu fais les deux en même temps. Il en est de même pour l'effleurement des chaussons. Et il n'est pas rapporté de hadith ou de preuve nous démontrant qu'il serait recommandé de commencer par la droite. Toutefois, si pour une raison quelconque, une personne n'est pas en mesure de pratiquer l'effleurement sur ses deux pieds en même temps, alors il n'y a pas de gêne dans cette situation à commencer par la droite, puis à effleurer la gauche, incha'Allah ta'ala. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit « وَأَمَّا الْجَبِيرَ فَيَمْسَحُ عَلَى جَمِيعِهَا » Il dit « Quant au plâtre, au pansement ou à l'attelle, alors il pratique l'effleurement sur toute sa surface. » C'est-à-dire qu'il passe sa main mouillée sur l'ensemble de la surface du plâtre. Enfin, pour finir, il faut savoir que l'effleurement, il peut également être pratiqué sur ce qu'on appelle l'imama, le turban pour les hommes, et le voile pour les femmes. Donc l'imama, c'est ce qui recouvre l'ensemble de la tête et qui est entouré autour de celle-ci, comme portent les hommes dans de nombreux pays. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait l'effleurement sur son turban, comme cela est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Et cela est permis en raison de la difficulté qu'il y a à retirer le turban. Et c'est pour cela qu'il n'est pas permis de pratiquer l'effleurement, par exemple, sur la chéchia, car il est simple de la retirer et de pratiquer l'effleurement directement sur la tête. Et l'effleurement sur le turban, il n'a pas de temps précis. Et également, ce n'est pas une condition de l'avoir mis en état de purification, car il n'y a aucune preuve démontrant cela. Toutefois, certains parmi les gens de science ont dit que si la personne ne le met qu'après avoir fait ses ablutions, alors ceci est une bonne chose, incha'Allah ta'ala. Quant à la femme, il lui est permis de faire l'effleurement sur son voile, s'il y a une difficulté pour elle à le retirer, comme par exemple si elle est à l'extérieur et qu'elle craint que l'on puisse la voir au moment de ses ablutions. Alors il n'y a pas de gêne à ce qu'elle fasse l'effleurement directement sur son voile. Mais s'il n'y a pas de besoin et qu'elle est chez elle, alors, le mieux est de le retirer, incha'Allah ta'ala. Et si elle a sur ses cheveux du henné ou un autre soin pour les cheveux comme de l'huile ou autre, alors elle peut faire l'effleurement directement dessus et il n'y a pas de gêne, les ablutions sont valides, incha'Allah ta'ala. On a donc terminé concernant les questions liées à l'effleurement et on verra dans le prochain cours, incha'Allah ta'ala, les choses qui annulent les ablutions. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم